Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour à tous, bienvenue dans vos animaux. Merci à vous d'écouter Sud Radio. Alors, au programme cette semaine, et si nous nous inspirions de l'intelligence animale pour gagner, nous, êtres humains, en humanité ? On parlera avec plusieurs spécialistes des différentes formes d'intelligence animale que l'on connaît de mieux en mieux aujourd'hui grâce à la science. Un sujet à la fois inspirant et enthousiasmant. Côté faune sauvage, une déviation près de Bordeaux fait débat une nouvelle fois. La construction d'une nouvelle route pose un dilemme. Amélioration de la circulation routière et désengorgement d'un côté, contre préservation d'un espace naturel riche en biodiversité. On en parlera en compagnie de notre spécialiste de la faune sauvage, Pierre Rigaud. Enfin, focus sur une association Parole de Chiens, des chiens visiteurs, qui, accompagnés de leur maître, distribuent du bonheur. Voilà, quel programme magnifique. Merci à vous d'écouter Sud Radio. On vous attend, bien sûr, au standard de l'émission 0826 300 300. Tout de suite, vos animaux et vous.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et aujourd'hui se tient la troisième édition de la Journée mondiale des intelligences animales. Ça va se passer à Paris, à la Cité de la Science et de l'Industrie. Bonjour Yolaine Delabigne.
Bonjour Natacha.
Alors Yolaine, vous êtes une voix connue de notre radio, bien sûr, mais vous êtes aussi la fondatrice de cet événement. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui pour nous expliquer pourquoi cette journée mondiale. Et puis à vos côtés, par téléphone, parce que c'est le grand jour pour vous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Françoise Sercollet. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous.
Françoise, vous êtes herpétologue. Alors herpétologue, je précise pour nos auditeurs qu'il s'agit non pas d'un gros mot, mais vous êtes spécialiste des serpents et des amphibiens. Vous travaillez dans le service du patrimoine naturel du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Avec vous, on va tordre le cou à cette mauvaise réputation des serpents et vous essaierez de nous expliquer comment leur intelligence s'exprime. Et puis j'ai aussi le plaisir de recevoir Olivier Piazza. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour à tous.
Vous êtes co-directeur du DU d'intelligence collective à l'université de Cergy-Pontoise et avec vous, nous allons parler justement de cette intelligence collective des animaux dont s'inspirent de plus en plus les êtres humains, notamment dans les entreprises. Mais j'ai envie de commencer avec Yolaine. Yolaine, pourquoi avoir eu cette idée génial, je dois bien le dire, de créer la Journée mondiale des intelligences animales.
Ben merci Natacha. Ben c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des progrès extraordinaires depuis quoi, 30-40 ans de la biologie, de l'éthologie, où on découvre que les animaux sont pas du tout moches, sales et bêtes comme on l'a cru pendant des siècles. Et puis il y a surtout un progrès de la mentalité et de notre mentalité à chacun d'entre nous, ce qui fait qu'aujourd'hui on commence à découvrir que non seulement l'animal est sensible, mais justement il est intelligent. Alors je dis tout de suite que c'est le mot intelligent au sens très populaire du terme. Évidemment les scientifiques parleront plutôt de cognition, etc. Quand on parle d'intelligence, c'est vraiment plutôt du comportement, on dira, c'est-à-dire qu'on va découvrir que les animaux ont des stratégies, de l'empathie, une vie de famille, ils ont des réactions d'altruisme, etc. Et c'est une très bonne nouvelle, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que d'abord, c'est un champ de connaissances absolument inouï et assez enthousiasmant où on découvre, quasiment toutes les semaines, il y a une étude incroyable qui sort sur des animaux aussi variés que le ver de terre, le guépard ou l'éléphant. Et puis, on découvre que ces animaux ont d'autres intelligences que les nôtres, des intelligences différentes. Nous, on a une intelligence abstraite et extraordinaire, mais eux, ils ont d'autres intelligences, et notamment des intelligences, je dirais, terre à terre, entre guillemets, qui peuvent nous aider à résoudre les problèmes de l'environnement et du réchauffement climatique. Et je pense qu'en fait, nous partageons cette planète avec eux et que nous avons tous à nous entraider. C'est pour ça que, notamment, l'intelligence collective est très intéressante. Et que même les animaux mal aimés, comme les serpents, ont des tas de choses, à mon avis, à nous apprendre.
Alors, on va justement en parler avec Françoise, mais j'imagine que derrière ce focus qui est mis sur les différentes formes d'intelligence animale, c'est d'ailleurs pour ça que cette journée mondiale est mise au pluriel en ce qui concerne les intelligences animales. Il y a une vraie volonté aussi d'accroître un peu plus la protection animale, parce que quand on les connaît mieux, quand on connaît mieux leurs différentes formes d'intelligence, on a peut-être un peu plus envie de les respecter et de les protéger.
Absolument, il y a un côté très militant derrière dont je ne me cache pas et dont je suis plutôt fière. Et en effet, prenons le cochon, qui est certainement un des animaux les plus maltraités depuis toujours. Or, le cochon est un des animaux qui ressemble le plus aux humains. C'est un animal incroyablement intelligent, qui est très propre. Par exemple, on dit que c'est sale, c'est
oui,
pas vrai. Dans la nature,
fait.
C'est très propre. Ça joue à des jeux vidéo mieux qu'un enfant de 7 ans et mieux que les singes. Mais il est facile, et d'un point de vue économique, parce que ça rapporte des sous, il est facile de mépriser le cochon, parce que comme ça, on peut le maltraiter tranquillement. Mmh. En disant qu'il est intelligent, sensible, et qu'il a une vie de famille, c'est en effet plus difficile de le maltraiter. Donc vous avez raison, il y a derrière, évidemment, un appel au respect et à la tolérance. C'est ça qui est assez génial. Darwin disait que dès qu'il y avait du vivant, il y avait de l'intelligence, et on se rend compte qu'en effet, tous les êtres finalement vivants, même les végétaux, exactement, ont leur intelligence à eux, et que l'intelligence humaine n'est pas la seule.
Voilà, ça ne sert à rien de comparer les différentes formes d'intelligence, il faut simplement ne pas nier les autres intelligences qui existent. Il n'y a pas que l'être humain qui est capable de faire preuve d'intelligence.
Et vous avez raison de dire qu'il ne faut pas comparer, vous avez tout à fait raison, absolument.
Françoise Sercollet, donc je disais que vous étiez herpétologue, spécialiste des serpents et des amphibiens. Bien. Est-ce qu'on peut parler d'intelligence chez les serpents, par exemple ?
On va surtout parler d'adaptation, de comportement adaptatif à des situations, comme un comportement qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le comportement antiprédateur chez la couleuvre helvétique, qu'on appelait avant la couleuvre à collier. Mmh. Alors elle est vraiment géniale, parce que dès qu'il y a un prédateur dans le coin, elle a peur, et donc du coup elle fait la morte, c'est-à-dire qu'elle se retourne complètement, on voit ses plaques ventrales, son ventre, elle ouvre la bouche, il y a la langue qui pend, et là, elle vide son cloaque, et ça pue, mais ça pue vraiment très très fort. Et ça veut dire au prédateur qui est dans le coin, ah ben non, tu peux pas me manger parce que moi je suis morte depuis trop longtemps, donc je suis immangeable. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un comportement typique que l'on pourrait trouver notamment chez les serpents.
Pourquoi les serpents ont-ils autant mauvaise presse, en tout cas dans notre pays, parce qu'il y a quand même des pays où ils sont au contraire presque vénérés, j'ai envie de vous dire.
Ah mais c'est tout à fait ça. Je dirais, dans notre civilisation judéo-chrétienne, qu'on le veuille ou non, le serpent, est à la base du péché originel.
Vous croyez qu'on en est vraiment resté là et que c'est ce qui explique le fait qu'on n'aime pas les serpents ?
Ah mais tout à fait. Qu'on le veuille ou non, on a un sac à dos d'inconscient collectif qui fait que Ève, elle a mangé la pomme à cause du serpent. Et depuis, on a perdu le paradis originel. Nous, les femmes, on accouche dans la douleur à cause d'un serpent. Donc, c'est vrai que d'une part, il y a ce côté...
C'est vrai que dit comme ça, ça donne pas envie.
Oui, mais quelque part, on peut voir les choses autrement et sous un autre œil, à savoir l'œil d'une herpétologue, à savoir que le paradis, c'était un beau jardin où il était interdit effectivement de manger donc la pomme, donc le fruit de l'arbre de la connaissance. Et quelque part, Adam et Ève, à l'époque, si je puis dire, s'ils ont vraiment, vraiment existé, comme diraient les créationnistes, c'était deux beaux légumes dans un beau jardin.
Ah ben
donc,
voilà, un sacré résumé.
Va manger le fruit de la connaissance. Et si nous sommes aujourd'hui ensemble à en parler, c'est grâce à un serpent.
Et dites-moi, il y a des pays comme l'Inde, mais il y en a peut-être d'autres qui, au contraire, vénèrent les serpents.
Absolument. Vous allez en Inde, en Inde, le serpent, il a sauvé la vie de Bouddha. Pourquoi ? Parce qu'un jour, Bouddha s'est endormi en plein désert, en plein soleil, ou alors sous une pluie battante, ça dépend des versions. Et du coup, le serpent, le cobra, en voyant que Bouddha dormait en plein soleil et risquait donc l'insolation, est arrivé. Et il a déployé son capuchon au-dessus de la tête de Bouddha pour lui faire un parasol ou un parapluie, ça dépend de la version. Et quand le Bouddha s'est réveillé et qu'il a vu que le serpent venait de lui sauver la vie, et ben pour le remercier, il a posé ses deux doigts derrière le capuchon du serpent. Est-ce que nous occidentaux, on appelle le serpent à sonnette, le serpent à lunettes, pardon. Eh ben, non, pas du tout. Ce sont pas des lunettes, ce sont les doigts de Bouddha.
D'accord. Bah écoutez, je ne connaissais pas cette histoire. Merci pour toutes ces explications. Vous tordez quand même bien le cou à cette mauvaise réputation des serpents. Vous avez une autre spécialité, ce sont les amphibiens.
Oui.
Ils sont intelligents, les amphibiens.
C'est pareil que les serpents. Hein. Ils ont aussi des comportements et je dirais. Et des
donnez-nous un exemple d'adaptation étonnante chez les amphibiens.
Alors moi, ce qui m'épate le plus, ce sont les salamandres et notamment les salamandres de haute montagne qu'on appelle les salamandres noirs. Figurez-vous que la femelle, elle va mener une gestation qui va durer entre 3 et 4 ans.
Entre 3 et 4 ans, oui. La pauvre.
Alors, voilà, 3 et 4 ans. Bon, il faut dire aussi qu'en haute montagne...
Ça, c'est un peu de l'anthropomorphisme que je suis en train de vous faire.
C'est vrai que c'est un peu de l'anthropomorphisme, mais il faut quand même rappeler qu'en haute montagne, les temps d'activité sont beaucoup plus courts, vu que ce sont des animaux qui vont hiberner. Donc, l'hiver est beaucoup plus long qu'en plaine. Donc, obligatoirement, le temps de gestation le sera par conséquent. Et donc, du coup, vous avez donc ces animaux-là... Enfin, ces femelles, elles vont avoir des œufs dans le ventre. Les œufs vont éclore dans le ventre. Les petites larves vont d'abord manger leur vitellus. Et une fois qu'il n'y aura plus de vitellus, eh ben, elles vont se manger...
Les réserves de l'œuf, hein, juste voilà. Pour expliquer de quoi il s'agit. Parce que là, vous êtes un peu technique, je pense, pour nos auditeurs, un bon samedi matin.
C'est vrai qu'on est samedi matin. Et du coup, les petites larves vont se manger entre elles. Et donc, elles vont manger les œufs qui n'ont pas été fécondés, elles vont manger les embryons morts, etc. Et il va en rester 2, voire 3, voire 4, ça dépend des espèces. Et à partir de là, la petite larve va voir ses branchies donc s'allonger et se coller sur les parois donc utérines de la femelle, afin que la femelle puisse donc nourrir donc ses petits comme ça.
Restez après... avec nous. Excusez-moi, François, je vous coupe. On marque une courte pause et vous allez finir de nous raconter cette histoire incroyable de la salamandre des montagnes.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et à l'occasion de la 3e édition de la Journée mondiale des intelligences animales qui se passe aujourd'hui à la Cité de la Science et de l'Industrie de Paris, une riche initiative de Yolaine Delabigne, une voix connue de notre radio Sud Radio, nous étions en train de vous expliquer l'histoire de la salamandre des montagnes avec vous, Françoise Sercollet. Vous êtes herpétologue spécialiste des serpents et des amphibiens. Je traduis pour ceux qui auraient raté le début de l'émission. Alors, on en était à cet accouchement de la salamandre des montagnes.
Effectivement, donc les salamandres noires, à un moment donné, donc elles vont avoir donc dans le ventre donc des petites larves qui vont avoir donc des branchies qui vont se poser donc sur les parois utérines de la femelle et pour se nourrir. Et au bout d'un moment, il va y avoir donc métamorphose de ces petites larves. Toujours à l'intérieur du ventre, donc les branchies vont régresser et là les petites salamandres vont se nourrir en broutant donc l'intérieur du ventre de la femelle avant donc l'accouchement où ça sera donc une petite salamandre complètement formée qui se sera complètement débarrassée donc du milieu aquatique.
Et bien voilà une très jolie histoire et surtout un bel exemple d'une forme d'intelligence animale puisque quand on parle d'intelligence animale il y a différentes façons de voir les choses. Yolaine Delabigne, vous avez volontairement choisi pour cette journée de conférence des spécialistes qui ne prennent pas forcément les exemples les plus attendus quand on pense intelligence animale. Forcément, on a en tête les grands singes dont on parle souvent, les mammifères marins. Voilà, vous avez aussi choisi d'autres thématiques, notamment la poule.
Absolument, parce que je pense que, comme vous dites, c'est facile de dire que le dauphin ou le singe est intelligent. Et justement, la poule, c'est l'exemple typique. C'est un animal qu'on aime beaucoup tous, mais on a toujours un peu l'impression que c'est complètement idiot. Et en fait, c'est loin d'être le cas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de dire en ce moment. C'est que, par exemple, les poules savent très bien compter. On ne le sait pas, mais un poussin, il compte à 5 à la naissance, jusqu'à 5 à la naissance. Nous, on est quand même obligés d'aller à l'école pour ça.
Vous m'apprenez un truc, hein. Moi, je ne savais pas.
Moi non plus, vous savez, moi, je fais que mettre en valeur des spécialistes et des scientifiques, j'apprends tout ça, et c'est incroyable. Et la poule a une vraie vie sociale avec une vie de famille, on assiste à de l'altruisme incroyable, et on découvre des choses incroyables sur les poules. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, Darwin le disait, chaque animal a l'intelligence qui l'intéresse. Une fourmi va avoir une intelligence de fourmi, un ver de terre va avoir une intelligence de ver de terre, il s'en fiche d'aller sur la lune ou d'avoir un ordinateur.
Bien sûr.
La poule, elle a son intelligence de poule. Et c'est pour ça que c'est une immense école de tolérance. Comme nous, les êtres humains, on sait qu'il y a des gens qui ne font pas l'ENA, mais qui sont très intelligents.
Et on a beaucoup à apprendre, effectivement, des animaux. Olivier Piazza, donc, vous travaillez sur un sujet passionnant qui est l'intelligence collective des animaux. Est-ce que vous pouvez, là encore, nous donner quelques exemples très concrets de ce que vous observez de vos études et peut-être des choses qui peuvent nous inspirer, nous, êtres humains.
Oui, alors justement, c'est ce qui est intéressant dans cette intelligence collective, c'est de se dire que nos modes de fonctionnement qu'on a acquis tout au long des siècles se sont restreints sur un mode principalement hiérarchique, alors que quand on regarde les animaux, ils ont mis en œuvre une richesse et une diversité qui est considérable pour fonctionner ensemble. Et avant de prendre un exemple d'animal qu'on connaît et qu'on fréquente aujourd'hui, je voulais juste rappeler que ça a beaucoup perturbé les scientifiques de se rendre compte progressivement qu'il pouvait y avoir des fonctionnements collectifs sans hiérarchie. Par exemple, au tout début, quand Lynn Margulis a identifié le fait que la première cellule nucléée, en fait, était née de la symbiose de bactéries et d'algues, ça a été une révolution complète. C'était impensable et imaginable. De même, après, quand on a commencé à identifier des amibes qui commençaient à se regrouper, à fonctionner comme ça, sans hiérarchie.
Parce que finalement, ouais. Ce qui surprend, c'est de se dire, le collectif, ça veut dire que quand même, il doit y avoir un chef. En gros, c'est ça que vous essayez de nous expliquer dans un... Excusez-moi, moi, j'essaie d'avoir un langage extrêmement simpliste ou simple. Mais c'est ça l'idée, et c'est quelque chose que nous, êtres humains, nous ne savons pas vraiment faire, je crois.
Il y a beaucoup d'exemples historiques qui montrent, et actuels, qui montrent qu'il y a une capacité aussi de nous autres humains à fonctionner autrement que selon les règles hiérarchiques. C'est justement ce qu'on range dans cette catégorie globale qu'on appelle intelligence collective. Et en tout cas, je parlais tout à l'heure de cette amibe...
Qui peut parfois aller jusqu'au désordre collectif.
Alors là, tout dépend justement des règles qu'on se fixe, des pratiques qu'on met en œuvre. Mais en fait, au tout début, vers les années 50, 60, 70, il y avait une résistance très très forte des scientifiques par rapport à cette idée que il n'y a pas de centralisation, il n'y a pas de cellules qui commandent, il n'y a pas de reine des fourmis qui commandent les autres, il n'y a pas de reine des abeilles qui commandent les autres. En fait, les reines chez les insectes sociaux sont des pondeuses. Donc ça, typiquement, pourquoi est-ce qu'on les a nommées reines alors que finalement leur rôle est vraiment différent? Ça illustre bien par le langage notre confusion concernant...
Oui, on avait besoin de calquer un modèle que l'on connaît chez nous.
Voilà,
tout simplement.
Exactement. Et si on prend les fourmis, par exemple, les fourmis coupe-feuilles qui sont vraiment impressionnantes en termes d'organisation, puisque une colonie peut regrouper plusieurs millions d'unités, elles sont en capacité de s'organiser complètement et d'élever un petit champignon qui est spécifique, hein, qui s'appelle le coocoprin. Et en fait, elles vont couper des feuilles Elles vont aller tout autour de la colonie, aller ramasser. On peut voir ça parfois dans des documentaires. C'est impressionnant. On voit des colonnes complètes de fourmis sur des centaines de mètres qui reviennent avec des gros morceaux de feuilles sur leur dos. Tout ça pour nourrir ce champignon qui ensuite sécrète tout ce dont elles ont besoin pour se nourrir. Donc alors que les fourmis en elles-mêmes ne sont incapables de digérer les feuilles. Donc là, il y a quelque chose qui est quand même assez incroyable. On peut dire que finalement, les fourmis ont inventé l'agriculture bien avant nous, puisque c'était il y a environ, on peut dire, 10 millions d'années. C'est autre chose que nous.
Est-ce qu'il y a des exemples d'intelligence collective chez les animaux dont l'être humain essaie de s'inspirer aujourd'hui pour reproduire un modèle ?
Oui, alors. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de mieux comprendre tous ces principes et de progressivement réussir à les mettre en application dans nos pratiques à nous, humains. Je vais prendre un exemple. Quand je disais tout à l'heure que les fourmis, ou je parlais des bactéries aussi, fonctionnent sans commandement central, eh bien, ça veut dire deux choses. Ça veut dire de l'auto-organisation. Et ça veut dire aussi ce qui s'appelle l'hétérarchie, c'est-à-dire non pas une hiérarchie avec un système descendant, mais au contraire des systèmes qui sont fluides, où la communication peut aller aussi bien vers le haut que vers le bas et que de manière horizontale, sans prédominance d'un individu par rapport aux autres. Et donc si on regarde aujourd'hui, par exemple, sur le fonctionnement d'Internet, on a des collectifs et des créations qui se sont créées sur ce mode-là, un système de pairs, par exemple, hein, tout ce qu'on appelle le peer-to-peer ou le pair-à-pair sur Internet, est un système qui fonctionne comme ça, d'auto-organisation sur la base de contributions volontaires, et où finalement chacun va se positionner sur une compétence qui lui est propre, qui lui est spécifique. Par exemple, on retrouve ça sur Wikipédia.
Oui, c'est n'importe effectivement lequel d'entre nous, un très bon exemple.
Ouais, n'importe lequel d'entre nous peut aller compléter un article. Mm-hmm. Exactement. On a retrouvé ça aussi, bien sûr, au tout début avec la création de Linux, qui a été système d'exploitation finalement créé par comme ça des pairs, et qui est sans système, sans organisation marchande à l'origine, et qui aujourd'hui est le système ultra-dominant partout dans le monde. Donc ça, ce sont des exemples sur Internet. Maintenant, on retrouve aussi typiquement dans les réunions, quand des collectifs se retrouvent, qu'on peut avoir 10, 100 ou 1000 participants, on est en train de découvrir que finalement, on peut faire coopérer toutes ces personnes-là selon des principes justement d'entraide, de solidarité, de relations entre pairs, avec par exemple une pratique qui s'appelle le forum ouvert, qui a été inventé en 1985 et qui est utilisé partout dans le monde aujourd'hui.
Eh bien, merci infiniment à vous trois de nous avoir donné envie de participer à cette journée mondiale des intelligences animales. C'est donc aujourd'hui, ça se passe à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris. Merci à vous, Yolaine Delabigne, parce que vraiment, il faut saluer cette initiative. C'est riche de sens, c'est riche en informations, riche tout court. Voilà, on vous embrasse.
Ceux qui ne peuvent pas venir, vous aurez tout sur le site, les conférences sur le site de l'animal et l'homme, sur celui de la Cité des sciences.
Eh bien voilà, tout est dit. Allez, courte pause, passez une très jolie journée de conférence puisqu'il y aura beaucoup d'experts qui vont se succéder avec beaucoup de thèmes extrêmement passionnants. Merci à vous, courte pause et on se retrouve dans quelques minutes.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Merci à vous d'écouter Sud Radio, merci d'être là pour vos animaux. Alors dans la suite de cette émission, dans notre séquence à l'état sauvage, nous allons partir dans le Médoc où un projet de détournement routier suscite la colère des protecteurs de la nature. Et puis nous vous raconterons ce que fait l'association Parole de Chien. Ce sera peut-être pour vous l'occasion de vous donner envie de devenir bénévole.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Et dans cette séquence à l'état sauvage, c'est notre spécialiste naturaliste Pierre Rigaud qui va nous expliquer ce qui se passe dans la commune de Taillant-Médoc. Alors, il y a des travaux qui ont démarré pour faire une déviation routière. Et là, le projet d'abord a coincé pendant très longtemps. Aujourd'hui, les travaux sont en cours, mais la polémique, elle, fait rage puisqu'il y a un impact très fort, visiblement, sur l'environnement local. Bonjour Pierre.
Bonjour Natacha.
Qu'est-ce qui se passe à Taillant-Médoc ? Racontez-nous tout.
À la base, il y a des gros bouchons qui sont très bien connus par les gens du coin. Je précise que je ne suis pas du coin, mais je suis allé voir sur place. Il y a un problème comme partout en périphérie de cette agglomération
qui est située proche de Bordeaux, voilà.
Voilà, et donc la décision du département, qui est un vieux projet en fait qui date d'au moins 30 ans, c'est de faire une déviation. Et cette déviation, hélas, elle va passer, elle commence déjà à passer, puisque vous l'avez dit, les travaux sont commencés, dans une zone qui est particulièrement sensible et fragile, puisque des inventaires de la flore, surtout de la faune, ont montré qu'il y avait une énorme richesse en biodiversité, qu'il y avait énormément d'espèces d'animaux, dont des espèces rares au niveau local au moins, voire plus largement. Et donc les opposants au projet disent que ça ne va pas résoudre les problèmes de bouchons. Bon, ça c'est une première question. Puis surtout, pour ce qui nous concerne, eh bien, ça va impacter très fortement des espèces qui sont déjà très mal en point.
Alors qu'est-ce qu'on trouve au niveau biodiversité dans cette partie-là précise du Médoc ?
Alors c'est une vaste zone humide, un peu comme on en trouve dans cette pointe du Médoc, avec des landes un peu sableuses et de l'eau qui est affleurante par certains endroits, ce qui fait qu'il y a par exemple des loutres. Ça fait partie des derniers endroits où on peut espérer encore voir des visons d'Europe, espèces extrêmement menacées au niveau national et même mondial. Et puis il y a des petits animaux qu'on ne soupçonne pas, mais qui sont au moins aussi rares. Des insectes par exemple, il y en a un qui s'appelle l'azuré de la sanguisorbe, et c'est un petit papillon qui ne paye vraiment pas de mine, il est gris et bleu, il ressemble peut-être pas à grand chose, bon moi je le trouve plutôt joli, mais en tout cas surtout il ne vit que lorsqu'il y a une espèce de plante qui s'appelle la sanguisorbe. Il a un cycle incroyable, puisque les chenilles, après avoir mangé un petit peu de cette plante, se laissent tomber au sol pour passer l'hiver dans une fourmilière d'une espèce précise de fourmis avant de ressortir au printemps et de se transformer en papillon. Donc il y a vraiment des raretés locales et voire plus. Et comme toutes les zones humides, c'est particulièrement sensible. Et dès qu'on impacte en faisant une route, eh bien, les opposants au projet disent qu'en plus, ça va industrialiser ce qu'il y a à côté de la route. Donc malgré toutes les mesures pour un peu essayer de limiter les dégâts, ça va vraiment avoir un impact très fort à l'échelle du Médoc.
Bon, c'est pas la première fois qu'un projet de construction, qu'un projet routier impacte la nature et fait forcément polémique auprès de ceux qui essaient de défendre cette nature et la biodiversité. Dites-moi Pierre, on n'est pas dans un site plus ou moins protégé, dans une réserve naturelle dans ce secteur ?
Alors, c'est pas une réserve naturelle, mais c'est, figurez-vous, le début du parc naturel régional du Médoc, qui est tout nouveau, qui s'est créé en 2019. Alors, c'est une partie de la déviation. En fait, cette route ne fait que 8 kilomètres, on peut se dire, c'est pas grand-chose, mais 8 kilomètres dans un endroit très très sensible et qui aboutit au début du parc naturel régional du Médoc, qui communique d'ailleurs beaucoup sur la protection de la nature. Donc, c'est un petit peu bizarre, en effet, d'un point de vue naturaliste, d'un point de vue simplement écologique, c'est un petit peu bizarre d'afficher en particulier une protection voulue par le parc des zones humides et de faire ça dans une zone humide parmi les plus fragiles de la région du sud-ouest en général, avec autant de diversité.
Mais d'un autre côté, on pourrait se dire mais réduire les bouchons, ça réduit aussi forcément l'impact écologique, la pollution, donc c'est peut-être une bonne chose quand même, non ?
Alors, les opposants ont un peu étudié la question, même beaucoup, et on conclut que finalement, ça ne faisait, un peu comme partout d'ailleurs, qu'augmenter globalement le trafic, parce que évidemment, ça enlève des bouchons localement, mais ça les fait se reporter ailleurs, et surtout, dès qu'on fait une route en périphérie d'une agglomération, on le voit vraiment dans d'autres villes, et finalement, à long terme, ça fait un appel d'air pour les voitures, et ça invite d'autant plus de gens à prendre leur voiture, et surtout le transport routier. Donc, cet endroit qui est en fait un peu la seule voie pour aller dans la pointe du Médoc en partant de Bordeaux, de toute façon, on bouchonne tant qu'il y a des voitures et des camions. Donc,
mais c'est quoi l'alternative ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Parce que quand on habite dans les grandes villes, on peut se dire qu'il y a les transports en commun ou on va se déplacer en vélo, mais c'est vrai que quand on est à la campagne, c'est utopique d'imaginer ça.
Bien sûr, mais là, c'est quand même surtout déjà beaucoup de camions qui passe avec notamment des constructions d'entrepôts logistiques dans cet endroit bien, bien spécial. Les opposants disent qu'il y a une route qui existe déjà, qui passe un petit peu plus loin, qu'il faudrait plutôt à choisir agrandir cette route-là plutôt que d'en faire une nouvelle dans un endroit sensible. Et puis plus globalement, développer des transports doux pour ce qui est au moins du transport de marchandises. En fait, c'est vraiment des questions de fond d'aménagement du territoire. Là, hélas, on détruit des milieux de façon tout à fait irréversible, hein, parce que ces zones humides...
Est-ce qu'on peut compenser d'un point de vue écologique un projet de construction comme celui-ci? Est-ce qu'il y a moyen de compenser, de déplacer? Je ne sais pas, je vous dis les choses un peu comme ça au hasard, ouais. Mais est-ce que c'est faisable, ça?
Alors, en théorie, c'est même obligé de le faire désormais avec la loi qui s'appelle, la doctrine au sens tout à fait légal, qui maintenant est inscrite dans la loi, qui est éviter, réduire, compenser. Donc, théoriquement, quand on ne peut pas éviter ni réduire l'impact, on compense. Mais en fait, on peut par exemple creuser une mare ou en protéger une à un autre endroit que celle où c'est détruit. Mais quand c'est des écosystèmes très complexes, on peut pas du tout recréer une complexité équivalente, complexité qu'on peut même pas, nous autres naturalistes, comprendre.
Oui, il suffit pas d'aller planter quelques arbres un peu plus loin pour reconstituer le milieu, c'est ça?
Ah non, ça marche pas du tout comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. Ce sont des écosystèmes, des milieux tellement fragiles, tellement uniques. Ici, c'est aussi une raison géologique que je vais pas détailler, mais qui fait que ce sont des milieux uniques qu'on ne peut pas remplacer. Ce qui est détruit est détruit.
Et comment faire passer ce message aux gens qui en ont ras-le-bol des embouteillages? Parce que c'est quand même une réalité que vivent au quotidien des milliers de personnes, voire des millions en France d'ailleurs.
Je pense que on est tous confrontés à ce problème-là, donc c'est vraiment très très complexe, mais je pense qu'on peut essayer de voir à plus long terme. C'est-à-dire que effectivement, quand on crée une rocade autour d'une agglomération, tous on se dit c'est chouette pendant quelques mois, quelques années, éventuellement ça libère un peu le trafic, mais à terme ça ne résout rien et ça ne fait qu'empirer les problèmes, parce que l'Europe, la France en particulier, se bétonise de plus en plus, et quand on construit sur des zones sensibles, à la fin c'est nous ou nos enfants qui en payons les conséquences, hélas, parce que ça entraîne notamment les inondations, c'est complètement lié avec tous les problèmes globaux de bouleversement écologique, en fait. Donc, je pense qu'il faudrait plutôt réfléchir collectivement à des façons plus douces de se déplacer. Et ça se fait de façon politique. C'est pas des choses très, très rigolotes. Mais c'est pas seulement une histoire de petites fourmis et de petits insectes rares. Hein. C'est beaucoup plus global sur le plan écologique que ça.
Est-ce que le projet a une chance d'être stoppé, ou est-ce que là, vraiment, c'est parti définitivement?
Il y a une chance encore qu'il soit stoppé, car il y a des recours juridiques menés par des associations de protection de la nature locale dont on aura le résultat mi-février. Et d'ailleurs, les opposants appellent à manifester demain, le dimanche 2 février, devant la mairie du Taillant-Médoc à 11h, de 11h à 14h, pour dire stop au béton et vive les papillons, mais pas seulement, c'est vive l'écologie et en
vive
plus...
Vive la nature.
Vive la nature. Voilà.
Merci beaucoup Pierre Rigaud pour cet éclairage tout à fait posé sur ce sujet, parce que ça sert à rien de s'emporter. Il faut au contraire essayer d'être assez pragmatique et de voir les choses de manière objective. Allez, courte pause et on se retrouve dans quelques minutes avec Parole de Chien. Je vous présenterai Jazzy et Yuki notamment.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Merci d'être toujours avec nous sur Sud Radio en écoutant Vos animaux, et nous allons vous présenter une magnifique association qui s'appelle Parole de Chien. Alors si vous entendez un petit grognement juste pour manifester sa présence, sachez qu'il s'agit de Yuki qui fait partie des chiens de l'association Parole de Chien. Il est d'ailleurs venu en compagnie de sa maîtresse Isabelle de Tournemire et fondatrice de l'association Parole de Chien. Il est venu accompagné de Jazzy, sa compagne.
Sa grand-mère,
oui, c'est ça, on peut dire ça, parce que Jazzy a quel âge, Isabelle?
Elle a 11 ans, et lui 2 ans.
Voilà, donc Jazzy, c'est elle qui lui donne le tempo pendant les visites. Expliquez-nous ce que fait Parole de Chien. Alors, et bonjour d'abord, pardon.
Bonjour. Parole de Chien recrute et forme des maîtres bénévoles avec leurs propres chiens en Île-de-France pour aller réaliser des visites en EHPAD, maison de retraite. L'idée, c'est que le bénévole aille tous les 15 jours près de chez lui rencontrer les mêmes personnes, des personnes isolées, qui vont aimer les chiens, qui ça va faire plaisir de voir ce chien et ça va les sortir petit à petit de leur isolement.
C'est pour ça que tout à l'heure, dans le sommaire de l'émission, j'ai expliqué que vous distribuez du bonheur, c'est vraiment ça. C'est... Comment ça se passe quand vous arrivez avec les chiens? Vous êtes attendu?
Oui, on est attendu. C'est très touchant parce qu'on a appris des soignants que certaines personnes, des dames, demandent à mettre leur plus belle robe, vont chez le coiffeur le jour du chien.
C'est vrai.
Certaines demandent une manucure. Donc, ça peut paraître assez étonnant, mais c'est un petit événement, en fait, dans un quotidien qui est quand même un peu monotone. Un cadre enfermant. Voilà, on a cette boule de poils qui déboule, c'est le cas de le dire, dans la chambre. Et voilà, nos chiens sont accueillis par voilà ma petite vedette, mon rayon de soleil, voilà.
Vous avez fait partie des pionniers parce qu'aujourd'hui ça se développe et c'est une bonne chose hein, de plus en plus. Alors pas forcément les chiens visiteurs qui viennent avec leur maître comme vous, mais soit des chiens accueillis ou des chats hein, d'ailleurs qui sont directement adoptés par la maison de retraite, ou encore on a parlé d'ailleurs il y a 15 jours de Pinto dans les Landes qui a été adopté par la maison de retraite et ses pensionnaires, ou encore des gens qui font de la médiation animale, auquel cas il s'agit de professionnels. Vous, votre spécificité, c'est que ce sont vraiment des maîtres lambda, monsieur et madame tout le monde, propriétaires d'un chien qui participent à ces activités. J'imagine que le recrutement doit quand même être compliqué. Comment fait-on pour faire partie de vos équipes Parole de Chien?
Vous avez raison, c'est compliqué. C'est pour ça que même si nous avons 18 ans d'existence, nous ne sommes qu'une vingtaine. Parce que le casting est compliqué. Il faut trouver des personnes qui aient envie d'aller voir des personnes âgées régulièrement, apprécier ce contact, aller dans ces lieux qui sont quand même des lieux de fin de vie. Voilà. Et puis le casting est double avec un chien qui doit être parfaitement sociable, qui doit aimer les gens, qui doit s'intéresser vraiment à des personnes étrangères, qui doit être très équilibré sur le plan émotionnel, oui. Donc avoir vu quand même pas mal de choses. Et puis éduquer un minimum, ce n'est pas le critère principal, mais pouvoir demander à un chien dans une chambre de pouvoir s'asseoir, se coucher sur un lit, puisque tous nos chiens vont sur les lits, même les 50 kilos.
C'est vrai ?
Voilà, on protège les lits avec des draps, mais pour les résidents que nous visitons, c'est quand même plus pratique que d'avoir le chien par terre.
Bien sûr, devoir se baisser.
Donc voilà, on installe...
Et vous avez tout type de chiens ?
Il y a aussi bien, il y a actuellement 2 chihuahuas, donc ça doit être entre 1 kilo. Oui, c'est même
donc
pas.
Ça, c'est pratique à mettre sur le lit.
Voilà, ça, c'est. Ils vont même pas sur le lit, ils sont tellement poids-plumes que les gens demandent à les avoir sur
dans les bras, sur eux.
Donc voilà, on peut mettre le chien vraiment sur le corps de la personne sans que ça lui fasse mal. Et puis, voilà, on a eu des bouviers bernois de 50, 55 kilos. Oui, il y a des gros gabarits aussi. Tout type de chien.
Donc tout type de chien, avec, on l'a bien compris, un minimum d'éducation et surtout un savoir-vivre en société qui leur permet justement d'être des invités agréables dans ces lieux qui ne sont pas faits théoriquement pour accueillir des animaux. Vous faites passer des tests, comment vous faites pour savoir si l'animal va convenir?
Ah oui, ça c'est vraiment l'étape, c'est une des toutes premières étapes dans le recrutement. C'est le chien d'abord, quoi. C'est pas la peine de recevoir le maître, parce que la personne au bout de la laisse, bien sûr, compte beaucoup. Mais on va voir son chien d'abord, voir s'il a envie d'être chien visiteur, s'il a des aptitudes pour ça.
Et comment vous...
Et donc, il est passé à la moulinette pendant 45 minutes par une comportementaliste et moi.
Ouais.
Et ben, les tests consistent, voilà, à voir si on arrive à capter l'attention de ce chien, si il va bien tolérer des fauteuils roulants, des béquilles. Des comportements assez marginaux, donc c'est vrai que j'ai un peu l'air d'une folle lors des tests.
Pourquoi vous?
Mais
vous,
je suis obligée.
Vous pouvez vous mettre
crie.
À crier.
Oui, oui je crie, j'adopte des comportements.
Je rassure nos auditeurs, vous n'êtes pas du tout folle et vous avez l'air tout à fait normale. Hein.
Ben, je ne sais pas ce que c'est que normal, mais voilà, comme il peut y avoir des gens avec des comportements curieux.
En
là
fait,
où
il ne faut
va.
Pas qu'ils soient surpris et qu'ils aient une réaction qui soit en proportion de la surprise. En gros,
voilà.
C'est ça l'idée.
Oui. Donc, il faut qu'ils aient vu un petit peu tout type de comportement. Donc voilà, c'est tout ça, vraiment plus que l'éducation.
C'est vrai que les chiens d'assistance, par exemple, qui sont des chiens, entre guillemets, professionnels de l'accompagnement de l'être humain, sont des chiens qui suivent, d'abord, ils sont extrêmement sélectionnés à la base, ensuite, ils suivent une longue formation, et tous ne vont pas au bout. Vous, vous avez affaire à des chiens tout aussi bénévoles que leur maître. C'est compliqué. Et pourtant, on voit là le petit Yuki que vous nous avez amené aujourd'hui dans le studio. Lui, typiquement, il a un parcours de vie qui ne l'amenait pas à la base à faire ce genre d'activité.
Ah ben Yuki, il est un peu à l'essai, hein. Il est en formation, ouais, c'est-à-dire
qu'il a que 2 ans, hein. Il est jeune.
Voilà, il a 2 ans, recrute à partir de 2 ans.
Ouais.
Donc je l'introduis tout doucement en institution. Il y a des endroits où je l'ai introduit, puis j'ai décidé de le retirer parce que j'ai trouvé que il n'était pas forcément tout à fait prêt. Il fait des merveilles à certains endroits et puis à d'autres, je trouve qu'il est à travailler un petit peu. Donc je me fais conseiller par cette comportementaliste avec laquelle nous travaillons. Voilà,
c'est
oui,
quoi faire c'est des pas... merveilles à certains endroits, en fait ? Qu'est-ce que l'animal déclenche au moment des visites ?
Alors, quand je dis qu'il fait des merveilles, c'est vrai que je ne lui ai pas appris. Je l'ai installé sur le lit d'une personne en fin de vie. Et voilà, il s'est couché délicatement. Il est allé se mettre dans le creux du bras de la personne. Il avait la tête appuyée tout près de son épaule. Voilà, ça, c'est des choses qui ne se commandent pas, quoi. Ouais. Il a des aptitudes au niveau des visites en chambre. Voilà. Moi, en revanche, quand je suis avec de jeunes ados qui courent dans tous les sens, je vois que ça ne lui plaît pas et qu'il peut se mettre à aboyer. Donc voilà, je juge qu'il n'est pas prêt pour D'accord. ça et on va travailler ça.
Et après, donc, quand vous sélectionnez des couples maîtres-chiens, vous pouvez les affecter à des tâches différentes parce que justement, vous avez ressenti qu'ils sont plus aptes à faire telle ou telle chose.
La plupart, je fais passer tous les bénévoles. Donc, il y a une formation théorique en institution.
Ouais.
Pas complètement théorique.
Ça
parce
dure
que
longtemps
c'est une journée et ils expérimentent déjà d'aller en chambre avec leur chien, puisqu'on a la chance de former dans un hôpital. Et puis, je continue cette formation par 5 accompagnements sur le terrain dans l'institution où
D'accord.
je les affecte. Pour voilà, comment installer le chien au mieux dans les chambres, comment va se faire le contact. Voilà, il faut que tout le monde s'y retrouve, que la personne visitée soit confortable, qu'elle puisse toucher ce chien. Mais
vous faites des activités parfois, comme du brossage, des choses comme ça ?
On n'est pas beaucoup à le faire, parce que ça, c'est une formation un petit peu plus costaud. Et puis, parce qu'animer un groupe de personnes déficientes, ce n'est pas forcément évident. Et puis aussi, je ne veux pas que les bénévoles soient... autant on peut aller tout seul dans une chambre avec son chien, quand on connaît bien la personne au bout d'un moment, il y a une petite intimité qui se crée. Autant, pour un groupe, je souhaite qu'une personne de l'établissement soit impérativement dans la pièce, que les gens soient... amener, accompagner, que si ça dérape, il y a quelqu'un du personnel pour gérer. C'est pas évident d'avoir ça en EHPAD aujourd'hui. Les situations sont quand même très tendues. Et voilà. Et puis, c'est pas tous les bénévoles qui ont envie.
Comment votre activité est-elle perçue justement par les établissements et les personnes qui y travaillent ?
Ça a été difficile au début, hein, il y a 18 ans, c'est
sûr.
Oui, il y a 18
ans, vous étiez très
avec
novatrice
avec
sur ce sujet.
J'ai démarré avec un gros golden de 40 kilos. Oui. Évidemment, les soignants ne voyaient que le côté hygiène. Voilà, ça va laisser des poils. Qu'est-ce que vient faire un chien ici ? Puis ils ont vite compris que... Enfin, ils ont vite pas compris, vu que ça apaisait énormément les personnes visitées, qu'un soin un peu intrusif passait mieux après, que des plateaux repas qui étaient refusés étaient acceptés. Donc, qu'il se passait quelque chose après la visite du chien.
Et les personnes qui sont bénévoles à vos côtés, donc on a bien compris, hein, une lourde sélection, une formation derrière. Est-ce que vous demandez un engagement en termes de temps ? Est-ce qu'il faut être disponible X jours par mois ? Parce que c'est un investissement pour vous en termes de temps aussi, de former, de sélectionner d'abord et de former ensuite. Donc vous avez des exigences particulières à ce niveau-là ?
Je demande aux bénévoles, si possible, de rester 2 ans, ce qui peut paraître beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai qu'ils vont aller tous les 15 jours, ils s'engagent à aller tous les 15 jours dans l'EHPAD près de chez eux. J'essaye vraiment d'affecter les gens près de chez eux, s'ils peuvent aller à pied,
c'est tant mieux. Les gens vont toujours au même endroit, en fait.
Voilà, ils sont affectés à un établissement. Vraiment, l'idée, c'est que ce soit pratique pour eux. Déjà, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur chien.
Oui.
Donc, il faut vraiment, j'essaye si possible que ce soit dans la même ville. Et voilà, donc il y a des moments où on ne peut pas intervenir avec les chiens. Par exemple, en été, quand il fait extrêmement chaud, on ne peut pas
Bien
arriver
sûr.
Avec un chien à plat. Voilà, bon, mais ça, les personnes le comprennent bien, elles sont souvent assez fatiguées elles aussi par la chaleur. Voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Donc, je demande si possible 2 ans, parce qu'il y a un lien très fort qui va se créer avec le chien. Donc, il ne faut pas que ça dure quelques mois.
Bien sûr.
Et puis, voilà, les personnes ne comprendraient pas trop.
On a bien compris tout ce que ça apporte aux personnes visitées. Le personnel soignant, d'ailleurs dans cette émission, les gens témoignent assez régulièrement sur ce que ça apporte aussi dans l'aide aux soins, à l'accompagnement des gens. Et les bénévoles, ça leur apporte quoi ?
Eh ben, j'essaye de le savoir. Souvent, je leur demande, parce qu'il y a un entretien ouais. avec moi lors du recrutement, qu'est-ce que ça vous apporte ? Et c'est vrai qu'ils ont du mal à le définir. Ils ont envie de... voilà, je crois qu'ils ont envie de donner de l'affection, de partager un peu de leur chien. De savoir qu'ils peuvent avoir un chien utile, ça les bon c'est un bénévolat.
C'est de la générosité.
Oui, il y a de la générosité. Puis je crois que c'est un bénévolat quand même assez gratifiant, même si exigeant. On est dans un univers difficile où on voit des choses parfois pas très agréables. Mais il y a un retour sourire, il y a un retour vraiment les personnes. On peut pas imaginer une visite. On reste en général 10 minutes, un quart d'heure dans une chambre. Les gens sont très fatigables. Et puis nos chiens ont besoin de pause aussi, hein, c'est un vrai travail pour eux. Et vraiment, les personnes nous disent voilà, combien ce chien est important, et sans nous le dire, quoi, il y a des sourires, il y a des regards qui s'allument, on voit que ça compte dans leur vie.
Eh bien, merci infiniment, Isabelle de Tournemire. Je rappelle le nom de votre association Parole de Chien. Vous avez un site internet, vous êtes présente sur les réseaux sociaux, mais vous cherchez des bénévoles uniquement en Île-de-France, puisque bah, on ne peut pas être partout à la fois, donc je le précise.
Non, avec des chiens.
Avec des chiens, oui, évidemment. Non, mais vous avez raison, il faut le dire aussi. Merci à vous, très chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se donne bien sûr rendez-vous dès la semaine prochaine.